Chapitre 20. Monsieur de Valsigny. Tandis que la discussion, dont nous connaîtrons plus tard les détails et les résultats, s'ouvrait autour de cette table au tapis vert où se sont tant de fois joués les destins de l'Europe, tandis que monsieur de Marande, simple voltigeur dans la deuxième légion, rentrant chez lui sans avoir de toute la journée laissé échapper une marque d'approbation ou d'improbation à laquelle on put reconnaître son opinion politique, dévêtait son uniforme avec un empressement qui indiquait son peu de sympathie pour l'état militaire, et comme s'il n'eût été préoccupé que du grand bal qu'il devait donner, présidait lui-même à tous les préparatifs de la soirée, nos jeunes gens, qui n'avaient pas revu Salvatore depuis les dernières recommandations échangées à la revue, s'étaient hâtés, ainsi que M. de Marande, de mettre bas leur uniforme et de venir s'informer chez Justin, comme à une source commune, de ce qu'il leur restait à faire dans les différentes éventualités qui pouvaient s'offrir. Justin attendait lui-même Salvatore. Le jeune homme arriva vers les 9 heures. Il avait lui aussi ôté son uniforme et repris son costume de commissionnaire. On voyait à son front couvert de sueur et à sa poitrine haletante qu'il avait largement utilisé le temps depuis son retour de la revue. « Eh bien, » demandèrent les 4 jeunes gens d'une seule voix, aussitôt qu'ils l'aperçurent. « Eh bien, » répondit Salvatore, « il y a conseil des ministres. » À quel propos? Mais à propos de la punition qu'il s'agit d'infliger à cette bonne garde nationale qui n'a pas été sage. Et quand saura-t-on le résultat du conseil? Aussitôt qu'il y aura un résultat. Vous avez donc vos entrées aux Tuileries? J'ai mes entrées partout. Diable, fit Jean-Robert, je regrette de ne pouvoir attendre, j'ai un bal obligé. Moi aussi, dit Pétrus. Chez madame de Marande? Demanda Salvatore. « Oui, » firent les 2 jeunes gens étonnés. « Comment savez-vous cela ?»« Je sais tout. »« Mais demain matin, au point du jour, des nouvelles, n'est-ce pas ?»« Inutile, vous en aurez cette nuit. »« Mais puisque Pétrus et moi allons chez madame de Marande, »« Eh bien, vous en aurez chez madame de Marande. »« Qui nous en donnera ?»« Moi. »« Comment, vous allez chez madame de Marande ?» Salvatore sourit finement. Non pas chez madame de Marande, dit-il, mais chez monsieur. Et puis il ajouta, avec le même sourire qui était un des signes particuliers de sa physionomie, « C'est mon banquier. »« Ah, sacre bleu, » dit Ludovic, « je suis fâché maintenant de ne pas avoir accepté l'invitation que tu m'offrais, Jean-Robert. » « S'il n'était pas si tard, » s'écria ce dernier, et tirant sa montre, « Ah, mais 9h30, » continua-t-il, « impossible. »« Vous désirez aller au bal de madame de Marande ?» demanda Salvatore. « Oui, » répondit Ludovic, « j'aurais voulu ne pas quitter mes amis cette nuit. Ne peut-il pas y avoir quelque chose d'un moment à l'autre ?»« Il n'y aura probablement rien, » dit Salvatore, « mais ne quittez pas vos amis pour cela. Il faut bien que je les quitte, puisque je n'ai pas d'invitation. » Salvatore laissa errer sur son visage un de ces sourires qui lui étaient habituels. « Priez notre poète de vous présenter, » dit-il. « Oh, fit vivement Jean-Robert, je ne suis pas assez libre dans la maison. » Et une légère rougeur passa sur ses lèvres. Alors, reprit Salvatore en se retournant vers Ludovic, « Priez, monsieur Jean-Robert, de mettre votre nom sur cette carte. » Et il tira de sa poche une carte imprimée portant ces mots. « Monsieur et madame de Marande ont l'honneur d'inviter monsieur, en blanc, à la soirée qu'ils donneront en leur hôtel de la rue d'Artois le dimanche 29 avril prochain. On dansera. Paris, 20 avril 1827. » Jean-Robert regarda Salvatore avec un étonnement qui tenait de la stupéfaction. « Allons, » dit Salvatore, « vous avez peur qu'on ne reconnaisse votre écriture? Donnez-moi une plume, Justin. » Justin tendit une plume à Salvatore. Celui-ci écrivit le nom de Ludovic sur la carte en forçant son écriture fine et aristocratique à prendre les proportions d'une écriture ordinaire. Puis il donna la carte à Jean-Robert. « Maintenant, » demanda Jean-Robert, « vous avez dit, mon cher Salvatore, que vous alliez non pas chez madame de Marante, mais chez monsieur. »« En effet, j'ai dit cela. »« Comment nous verrons-nous »« Ah, c'est vrai, reprit Salvator avec son même sourire, car vous allez chez madame, vous. Je vais au bal d'un ami, et je ne présume pas qu'on parlera politique dans ce bal. Non, mais à 11 h 30, quand notre pauvre Carmélite aura chanté, le bal commencera, et à minuit sonnant, on ouvrira, au bout de la galerie qui forme une serre, le cabinet de monsieur de Marande. Là seront admis tous ceux qui diront ces deux mots, Chartes et Chartres. Ils ne seront pas difficiles à retenir, n'est-ce pas? Non. Eh bien, voilà toute chose convenue. Maintenant, si vous voulez vous habiller et être à 10 h 30 dans le boudoir bleu, il n'y a pas de temps à perdre. J'ai une place pour quelqu'un dans mon coupé, dit Pétrus. Prends Ludovic, vous êtes voisin, dit Jean-Robert, moi j'irai de mon côté. Soit. Ainsi, à 10 h 30, dans le boudoir de madame, pour entendre Carmélite, dit Pétrus, et à minuit, dans le cabinet de monsieur, pour savoir ce qui se sera passé aux Tuileries. Et les trois jeunes gens, après avoir serré la main de Salvatore et Justin, se retirèrent, laissant ensemble les deux carbonari. À 11 h, nous l'avons vu, Jean-Robert, Pétrus et Ludovic étaient réunis chez madame de Marande et applaudissaient Carmélite. À 11 h 30, tandis que madame de Marande et Regina prodiguaient leurs soins à Carmélite évanouie, ils donnaient à Camille la leçon que nous avons dite. Enfin, à minuit, pendant que monsieur de Marande restait en arrière pour prendre des nouvelles de Carmélite, baisait galamment la main de sa femme et lui demandait comme une faveur, une fois le bal terminé, d'aller la saluer dans sa chambre à coucher, ils entraient dans le cabinet du banquier en donnant le mot de passe convenu « Chartes et Chartres ». Là étaient rassemblés tous les vétérans des conspirations de Grenoble, de Belfort, de Saumur et de La Rochelle. Et tous ces hommes, enfin, qui avaient conservé leur tête sur leurs épaules par un miracle d'équilibre, les Lafayette, les Quechelin, les Pajol, les d'Hermoncourt, les Carrel, les Guimard, les Arago, les Cavaillac, chacun représentant soit une opinion tranchée, soit une nuance d'opinion, tous se produisant, au plus grand jour, une honorabilité reconnue. On mangeait des glaces, on buvait du punch et l'on parlait théâtre, art, littérature, politique, on s'en fut bien gardé. Les trois jeunes gens entrèrent ensemble et cherchèrent des yeux Salvator. Salvator n'était point encore arrivé. Et tous trois, alors, selon leur sympathie, allèrent s'attacher à une de ces grandes renommées qui étaient là. Jean-Robert à Lafayette, qui avait pour lui une amitié presque paternelle, Ludovic à François Arago, cette belle tête, ce grand cœur, ce charmant esprit, enfin Pétrus à Horace Vernet, dont tous les tableaux venaient d'être refusés au salon, et qui avait fait chez lui une exposition particulière à laquelle courait tout Paris. Le cabinet de M. de Marande présentait un curieux échantillon des mécontents de tous les partis. Tous ces mécontents parlant, comme nous l'avons dit, de choses d'art, de science, de guerre, tournaient cependant la tête vers la porte à chaque nouvel arrivant. Ils semblaient attendre quelqu'un. Et en effet, ils attendaient le messager encore inconnu qui devait leur apporter des nouvelles du château. Enfin, la porte s'ouvrit et donna passage à un jeune homme d'une 30aine d'années, mais avec la plus parfaite élégance. Pétrus, Ludovic et Jean-Robert retinrent un cri d'étonnement. Ce jeune homme, c'était Salvator. Le nouveau venu chercha des yeux, aperçut M. de Marande et s'avança vers lui. M. de Marande lui tendit la main. « Vous arrivez tard, M. de Valsigny, » dit le banquier. « Oui, monsieur, » répondit le jeune homme avec des voix et des gestes parfaitement différents de ses gestes et de sa voix habituelle, et en portant un lorgnon à son œil droit, comme s'il avait besoin de cet appendice pour reconnaître Jean-Robert, Pétrus et Ludovic. « Oui, j'arrive tard, c'est vrai, mais j'ai été retenu chez ma tante, une vieille douairière, amie de madame la duchesse d'Angoulême et qui me donnait des nouvelles du château. » Tous les assistants redoublèrent d'attention. Salvator échangea quelques saluts avec les personnes qui se pressaient autour de lui, y mettant, dans une mesure précise, le degré d'amitié, de respect ou de familiarité que l'élégant monsieur de Valsigny croyait devoir accorder à chacun. « Des nouvelles du château ?» répéta M. de Marande. « Il y a donc des nouvelles du château ?»« Ah, vous ne savez pas, oui, il y avait conseil. »« Ah, cela, cher M. de Valsigny, » dit en riant M. de Marande, « ce n'est pas du nouveau. »« Mais cela peut en faire, et cela en a fait. »« Vraiment ?»« Oui. » On se rapprocha. sur la proposition de messieurs de Villèle, de Corbière, de Perronnet, de Damas, de Clermont-Tonnerre, sur l'insistance de madame la Dauphine que l'écrit « Abat les Jésuites » avait fort blessé, malgré l'opposition de messieurs de Frayssinous et de Chabrol qui votaient pour le licenciement partiel, la garde nationale est dissoute. Dissoute ? De fond en comble, de sorte que moi qui avais un très beau grade, j'étais fourrier, me voilà sans emploi, et il faudra que je m'occupe à quelque chose. Dissoute, répétèrent les auditeurs, comme s'ils ne pouvaient croire à cette nouvelle. Mais c'est très grave ce que vous dites là, monsieur, fit le général Pajol. Trouvez-vous, général ? Et sans doute, c'est tout simplement un coup d'État. Eh bien, Sa Majesté Charles X a fait un coup d'État. « Vous êtes sûr de ce que vous dites ?» demanda Lafayette. « Ah, monsieur le marquis, Salvatore n'avait pas pris au sérieux messieurs de Lafayette et de Montmorency brûlant leurs titres dans la nuit du 4 août 1789. « Ah, monsieur le marquis, je ne dirai rien qui ne fût l'exacte vérité. » Et puis, d'une voix ferme, « Je croyais avoir l'honneur d'être assez connu de vous pour que vous ne doutassiez point de ma parole. » Le vieillard tendit la main au jeune homme, et puis, tout souriant et à demi-voix, « Déshabituez-vous donc de m'appeler marquis, lui dit-il. « Excusez-moi, reprit en riant Salvatore, mais vous êtes tellement marquis pour moi. Eh bien, soit pour vous qui êtes un homme d'esprit, je resterai ce que vous voudrez, mais faites-moi seulement général pour les autres. » Alors, revenant à la conversation primitive, « Et quand rend-on cette belle ordonnance ?» demanda Lafayette. « Elle est rendue. »« Comment rendue ?» fit monsieur de Marante. « Je ne la sais pas encore. »« Vous le saurez probablement tout à l'heure. Il ne faut pas en vouloir à votre donneur d'avis s'il est en retard. J'ai des moyens à moi de voir à travers les murailles une espèce de diable boiteux qui soulève les toits pour que je regarde dans les conseils d'État. » Et en regardant à travers les murailles des Tuileries, vous avez vu rédiger l'ordonnance, reprit le banquier. Il y a plus, j'ai lu par-dessus l'épaule de celui qui tenait la plume. Oh, il n'y a pas de phrase, ou plutôt il n'y a qu'une phrase. Charles X, par la grâce de Dieu, etc., sur le rapport de notre secrétaire d'État, ministre de l'Intérieur, etc., la garde nationale de Paris est dissoute. Voilà tout. Et cette ordonnance est envoyée en double, un pli au moniteur, un pli au maréchal Oudinot. Et elle sera demain au moniteur. Elle y est déjà, seulement le moniteur n'a pas encore paru. Les assistants se regardèrent. Salvatore continua. Demain, ou plutôt aujourd'hui, car nous avons enjambé minuit, aujourd'hui, à 7 heures du matin, les gardes nationaux seront relevés dans leur poste par la garde royale et la troupe de ligne. « Oui, dit une voix, jusqu'à ce que les gardes nationaux relèvent dans leur poste la troupe de ligne et la garde royale. »« Ah, cela pourra arriver un jour, répondit Salvatore, dont l'œil lança un éclair, mais ce ne sera point sur une ordonnance du roi Charles X que la chose arrivera. »« C'est à ne pas croire d'aveuglement, dit Arago. » « Ah, monsieur Arago, fit Salvatore, vous, un astronome qui pouvait à l'heure et à la minute prédire les éclipses, vous ne voyez pas mieux que cela dans le ciel de la royauté ?»« Que voulez-vous, dit l'illustre savant, je suis un homme positif et par conséquent plein de doutes. »« C'est-à-dire que vous voulez une preuve, fit Salvatore. Soit, on va vous en donner une. » Il sortit de sa poche un petit papier encore humide. « Tenez, reprit-il, voici une épreuve de l'ordonnance qui sera demain au moniteur. Dame, elle est un peu effacée, elle a été tirée tout exprès pour moi, à la brosse. » Puis, avec un sourire, « C'est cela qui m'a un peu retardé, ajouta-t-il, je l'attendais. » Et il donna l'épreuve à Arago, des mains duquel elle passa dans toutes les mains. Puis, comme un acteur qui ménage ses effets, quand Salvatore eut vu que l'effet de l'épreuve était produit, « Ce n'est pas le tout, dit-il. « Comment, qu'y a-t-il donc encore ?» demandèrent toutes les voix. « Il y a que monsieur le duc de Doudouville, le ministre de la Maison du Roi, a donné sa démission. « Oh, dit Lafayette, je savais que depuis l'insulte faite par la police au corps de son parent, il n'attendait qu'une occasion. « Eh bien, fit Salvatore, à propos de la garde nationale, l'occasion s'est présentée. « Et la démission a été acceptée ? » ?»« Avec empressement. » Par le roi? Le roi se faisait bien un peu tirer l'oreille, mais madame la duchesse d'Angoulême lui a fait observer que c'était une place toute trouvée pour monsieur le prince de Polignac. Comment pour monsieur le prince de Polignac? Pour monsieur le prince Anatole Jules de Polignac, condamné à mort en 1804, sauvé par l'intervention de l'impératrice Joséphine, fait prince romain en 1814, père en 1816 et ambassadeur à Londres en 1823. Y a-t-il encore à se tromper sur l'identité? Mais puisqu'il est ambassadeur à Londres, oh, qu'à cela ne tienne, général, on le rappellera. Et monsieur de Villèle, fit monsieur de Marande, il a approuvé le rappel? Il s'est bien un peu opposé, répondit Salvatore, conservant avec une persistance stupéfiante son air léger. Car c'est un fin renard que monsieur de Villèle a ce qu'on dit, du moins. Moi, je n'ai l'honneur de le connaître que comme le commun des martyrs, et martyr est bien le mot, je crois, depuis le 5%. Or, en sa qualité de fin renard, il comprend, quoique, au dire de Barthélemy et Méry, depuis 5 ans entiers, l'impassible Villèle cimente sur le roc sa fortune éternelle. Et il comprend qu'il n'y a pas de roc, si solide qu'il soit, qu'on ne puisse miner. Témoin Hannibal, qui, suivant Titli, va percer la chaîne des Alpes avec du vinaigre. Et il a peur que M. de Polignac ne soit le vinaigre qui pulvérisera son roc. Comment, s'écria le général Pajol, M. de Polignac au ministère? Il ne nous resterait plus qu'à nous voiler la face, ajouta Dupont de l'Eure. Je crois, monsieur, dit Salvatore, qu'il nous resterait au contraire à la montrer. Le jeune homme prononça ces mots avec un accent différent de celui qu'il avait adopté jusque-là, à tel point que tous les yeux se fixèrent sur lui. Là seulement, ses 3 amis l'avaient reconnu, c'était bien leur Salvator à eux, et non plus le Valsigny de M. de Marande. En ce moment, un laquais entra et remit un pli au maître de la maison. « Pressé, dit-il. » « Je sais ce que c'est, fit le banquier. » Et il prit vivement la lettre qu'il tira d'une enveloppe sans cachet et lut ces 3 lignes, écrites d'une grosse écriture. « La garde nationale dissoute, la démission du duc de Doudouville acceptée, monsieur de Polignac rappelé de Londres. »« En vérité, s'écria Salvatore, on dirait que c'est moi qui renseigne son Altesse royale, monseigneur le duc d'Orléans. » Tout le monde tressaillit. « Mais qui vous dit que ce billet soit de son Altesse royale ?» fit M. de Marande. « J'ai reconnu son écriture, » répondit simplement Salvatore. « Son écriture ? Oui, il n'y a rien d'étonnant à cela. J'ai le même notaire que lui, M. Barateau. » On annonça que le souper était servi. Salvatore laissa retomber son lorgnon et regarda son chapeau en homme qui s'apprête à sortir. « Vous ne nous restez pas à souper, monsieur de Valsigny ?» demanda vivement monsieur de Marande. « Impossible, monsieur, et j'en suis au regret. »« Comment cela ? Ma nuit n'est pas finie, et je vais l'achever à la cour d'assises. »« À la cour d'assises, à 7 heures ?»« Oui, on est pressé d'en finir avec un pauvre diable dont le nom ne vous est peut-être pas inconnu. »« Ah, Saranti, ce misérable qui a tué 2 enfants et volé une somme de 100 000 écus à son bienfaiteur, » dit une voix. « Et qui se fait passer pour bonapartiste, » dit une autre voix, « j'espère bien qu'il sera condamné à mort. »« Oh, pour condamné à mort, vous pouvez en être sûr, monsieur, » dit Salvatore. « Fait exécuter. »« Ah, exécuter, c'est moins sûr. »« Comment, vous croyez que sa majesté ferait grâce à un pareil scélérat ?»« Non, mais il se pourrait que le scélérat fût innocent, et alors sa grâce viendrait non pas du roi, mais de Dieu. » Et Salvatore prononça ces derniers mots avec un accent qui le faisait de temps en temps reconnaître par ses 3 amis, sous l'apparence frivole qu'il avait revêtue. « Messieurs, dit M. de Marande, vous avez entendu, le souper est servi. » Pendant que les personnes auxquelles s'adressait M. de Marande prenaient le chemin de la salle à manger, les 3 jeunes gens s'approchèrent de Salvatore. « Dites-moi, mon cher Salvatore, lui demanda Jean-Robert, il serait possible que nous eussions besoin de vous voir demain ?» c'est probable. Alors, où nous trouverons-nous? Mais à ma place habituelle, rue aux Fers, à la porte de mon cabaret, au coin de ma borne. Vous oubliez toujours que je suis commissionnaire, mon cher. Oh, les poètes, les poètes. et il sortit par la porte opposée à celle qui conduisait dans la salle à manger, sans hésitation, comme un homme à qui tous les passages de la maison sont familiers, et laissant ses trois amis dans un étonnement qui allait presque jusqu'à la stupéfaction.